Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Mein Kampf, histoire d'un livre, Antoine Wittgen ne propose ni une biographie classique d'Adolf Hitler, ni un commentaire linéaire de son manifeste. Son enquête retrace la trajectoire éditoriale, politique et symbolique de Mein Kampf depuis sa rédaction après le putsch manqué de 1923 jusqu'à ses circulations. Interdiction et réédition contemporaine. Wittgen étudie un objet éditorial singulier, un texte dont la violence antisémite, raciste, expansionniste et antidémocratique était largement explicite, mais que beaucoup de lecteurs et de responsables européens ont minimisé avant la guerre. Le livre examine ainsi les conditions dans lesquelles un programme idéologique peut être lu sans être pris au sérieux, puis devenir rétrospectivement la preuve d'un aveuglement collectif. Il s'intéresse également aux traductions, aux stratégies de diffusion et de restriction, ainsi qu'au débat durable entre censure, contextualisation historique et risque de fétichisation. L'objectif est moins de redire le contenu du manifeste que d'expliquer ce que son histoire révèle sur la réception des discours extrémistes et sur le pouvoir politique des livres. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un manifeste explicite, pourtant neutralisé par l'incrédulité européenne. Wittgen place au centre de son enquête un paradoxe historique. Mein Kampf exposait déjà des éléments essentiels de la vision hitlérienne, antisémitisme radical. Haine du parlementarisme, culte de la force, projet d'expansion territoriale, sans produire, hors d'Allemagne comme en Allemagne, l'alarme proportionnée à cette violence. Le livre ne laisse donc pas entendre que les intentions nazies étaient secrètes ou impossibles à connaître. Il montre plutôt que la connaissance d'un texte ne garantit ni sa compréhension politique, ni une réaction collective. Beaucoup ont pu y voir une rhétorique de militants. Un délire personnel, un instrument de propagande trop outrancier pour annoncer une action réelle. Ou encore un document dont les ambitions seraient contenues par les institutions et la diplomatie. Cette réception éclaire une mécanique plus large. Les sociétés ne jugent pas seulement les idées selon ce qui est écrit, mais selon ce qu'elles considèrent plausible. Dans les années de crise, l'extrémisme peut être banalisé lorsqu'il se présente sous la forme d'un programme parmi d'autres. Quand bien même ces principes démentent les normes démocratiques les plus élémentaires. Wittgen relie ainsi l'histoire du livre à l'aveuglement devant la montée du nazisme. La lecture de Mein Kampf devient un cas d'étude de la sous-estimation politique. Des annonces explicites peuvent être écartées précisément parce qu'elles paraissent trop extrêmes pour être réalisées. Deuxièmement, de Landsberg à la conquête du pouvoir, la fonction politique du livre. L'enquête rappelle que Mein Kampf est né dans le contexte de l'emprisonnement de Hitler à Landsberg, après l'échec du putsch de Munich. Ce cadre importe, non pour romantiser la rédaction du texte, mais pour comprendre sa fonction dans la reconstruction d'un mouvement nationaliste radical. L'ouvrage mêle récit de soi, interprétation idéologique du monde et programme politique. Il contribue à donner une cohérence apparente à des obsessions raciales, antisémites et nationalistes, tout en installant Hitler comme le porte-parole et le centre du projet nazi. Wittgen s'intéresse donc au livre comme outil de légitimation. Un manifeste ne persuade pas nécessairement par la solidité de son raisonnement, il peut fédérer en désignant des ennemis, en simplifiant les causes d'une crise et en promettant une restauration nationale. Dans ce cas, la construction d'un chef providentiel et l'élaboration d'un récit de déclin allemand participent à la cohésion du mouvement. Le succès ultérieur du texte ne peut d'ailleurs pas être séparé de l'appareil de propagande nazie et de l'ascension du régime, qui lui confère une autorité institutionnelle et une visibilité exceptionnelle. Cette approche évite deux réductions, voire dans Mein Kampf, soit un texte sans effet, parce qu'il est confus et idéologiquement délirant, soit une cause unique du nazi. Wittgen le situe plus justement dans une interaction entre écrit, organisation partisane, crise politique, propagande et conquête du pouvoir. Troisièmement, traduire, publier. Interdire les ambivalences de la circulation internationale. Une dimension distinctive du livre est son attention à la vie internationale de Mein Kampf. Wittgen suit la circulation du texte au-delà de l'Allemagne et montre que les traductions ne sont jamais de simples opérations techniques. Publier une œuvre aussi explicitement hostile à certains pays ou à certains groupes pose des questions diplomatiques, commerciales, juridiques et politiques. Le cas français est particulièrement révélateur. Hitler et son entourage ont cherché à empêcher ou limiter la diffusion de versions qui rendaient ses ambitions plus immédiatement accessibles au public français. Cette volonté de restriction souligne que le futur dictateur comprenait le coût politique de sa propre franchise lorsqu'elle est élue à l'étranger. L'histoire éditoriale fait aussi apparaître une tension durable. Interdire peut limiter la diffusion ordinaire d'une propagande haineuse, mais peut simultanément entretenir l'aura d'un livre supposé secret, interdit ou doté d'un pouvoir particulier. Autoriser sans accompagnement, à l'inverse, risque de laisser circuler un texte de propagande sous une apparence documentaire ou provocatrice. Witkin ne transforme pas ce dilemme en solution simple. Il met en évidence les effets variables des décisions de publication selon les contextes. La contextualisation, préface, note, appareil critique, rappel des crimes du régime apparaît dès lors comme un enjeu central. Elle ne rend pas le texte inoffensif par elle-même, mais elle refuse de le laisser fonctionner comme un objet isolé. L'histoire de ces éditions devient ainsi une histoire des responsabilités attachées à la transmission des documents idéologiques violents. Quatrièmement, quand le livre dépasse son contenu et devient un symbole politique autonome. Witkin analyse Mein Kampf comme un phénomène éditorial dont la réputation a parfois pris le pas sur la lecture effective. Très connu, souvent cité, fréquemment interdit ou entouré de précautions, le livre est devenu un symbole du mal nazi autant qu'un texte réellement lu dans son intégralité. Cette transformation est décisive, un ouvrage peut continuer à exercer une fonction politique, même lorsque son contenu précis est mal connu. Il peut servir de signe de ralliement pour certains groupes radicaux, de support de provocation, d'objet de collection ou, au contraire, d'emblème commode de la barbarie pour ceux qui le rejettent. L'enquête invite donc à distinguer plusieurs objets, le manifeste historique de Hitler. L'objet commercial diffusé dans diverses langues, le document étudié par les historiens et le mythe culturel du livre maudit. Confondre ces dimensions empêche de comprendre pourquoi les controverses sur sa publication se prolongent bien après 1945. La simple rareté, l'interdit ou l'absence de contexte peuvent renforcer la fascination qu'ils prétendent combattre. Inversement, une édition savante peut déplacer l'attention vers les procédés de fabrication du discours et ses conséquences historiques. Cette réflexion ne banalise nullement le texte. Elle permet plutôt de le démystifier sans l'absoudre, sa dangerosité ne réside pas dans une force mystérieuse. Mais dans des idées génocidaires articulées à une mobilisation politique réelle, puis dans les usages que des lecteurs et des militants peuvent encore en faire. En dernier lieu, lire l'histoire du manifeste comme avertissement contre la démagogie contemporaine. Le propos de Witkin dépasse l'histoire du nazisme sans établir d'assimilation facile entre les situations présentes et l'Allemagne des années 1930. Son point est plus rigoureux, l'itinéraire de Mein Kampf permet d'examiner des mécanismes qui restent intelligibles aujourd'hui. Parmi eux figure la désignation d'un ennemi intérieur, l'explication simpliste des crises par un complot, la promesse d'un ordre national régénéré et la disqualification des institutions libérales. Le texte hitlérien montre comment des affirmations manifestement mensongères ou haineuses peuvent acquérir une apparence de cohérence lorsqu'elles organisent les peurs et les frustrations autour d'un récit unique. L'ouvrage souligne également que la démocratie ne se protège pas automatiquement par son existence formelle. Le nazisme a progressé dans un cadre où élections, partis et débats publics existaient, mais où les crises économiques, sociales et institutionnelles fragilisaient la confiance collective. La leçon n'est donc pas que tout désaccord politique conduit au totalitarisme. Elle est que les procédures démocratiques doivent s'accompagner d'une vigilance envers les programmes qui nient l'égalité civique et rendent certains groupes responsables de tous. Les mots. Dans cette perspective, lire Witkin aide moins à rechercher des équivalents immédiats de Hitler qu'à acquérir une méthode critique, prendre les manifestes au sérieux. Examiner leurs ennemis désignés, leurs promesses de salut et l'écart entre leur langage politique et les principes démocratiques. En conclusion, Mein Kampf. Histoire d'un livre s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire contemporaine, aux étudiants, aux enseignants et aux personnes qui s'interrogent sur la propagande, l'édition ou la fragilité des régimes démocratiques. Il sera particulièrement utile à ceux qui connaissent déjà la place de Mein Kampf dans l'histoire du nazisme, mais qui souhaitent comprendre comment un tel texte a été écrit, vendu, traduit, reçu, contesté et parfois insuffisamment pris au sérieux. Son bénéfice intellectuel tient à ce déplacement du regard plutôt que de traiter le manifeste hitlérien comme une relique uniquement monstrueuse. Witkin en examine les conditions concrètes de circulation et les effets de sa réception. Ce positionnement distingue le livre d'une biographie de Hitler, d'une synthèse générale sur le Troisième Reich ou d'une étude exclusivement doctrinale de l'antisémitisme nazi. L'objet principal n'est pas seulement l'auteur ni même le contenu du texte, mais la biographie d'un livre, sa fabrication, son usage comme instrument de pouvoir, son destin international et son statut ambigu après la guerre. Cette perspective relie histoire politique, histoire culturelle et histoire de l'édition. L'ouvrage offre enfin un cadre utile pour réfléchir aux controverses sur les textes haineux, ni l'interdiction ni la libre diffusion ne sont analysées comme des réponses, automatiquement suffisantes, en privilégiant l'enquête, la contextualisation et l'attention aux usages sociaux des écrits. Witkin fournit des outils précis pour lire les discours radicaux sans les fétichiser ni les sous-estimer. Si vous souhaitez soutenir Antoine Witkin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.